Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 20 janvier 1946, le général de Gaulle s'en va. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée constituante désigne à l'unanimité Charles de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française. Deux jours plus tard, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, est reçu par le nouveau président du Conseil qui s'est déjà entretenu avec le secrétaire général de la SFIO, Daniel Mayer, et le président du mouvement des Républicains populaires, Maurice Schumann. Le général leur expose comment il entend former son gouvernement. Maurice Thorez, pour les communistes, revendique l'un des trois grands ministères, les ministères régaliens, à savoir l'intérieur, les affaires étrangères ou la défense nationale. De Gaulle s'oppose à cette injonction. Le 17 novembre, par un discours radiodiffusé, il rend les Français juges et arbitres du conflit. Deux jours plus tard, l'Assemblée constituante vote par 358 voix contre 39 un texte qui lui donne un mandat impératif pour que puisse être formé dans les délais les plus brefs un gouvernement composé essentiellement des trois partis socialistes, communistes et MRP se partageant équitablement les portefeuilles pour l'application du programme du Conseil national de la Résistance. Charles de Gaulle n'est plus libre. Il est prisonnier du jeu politique. Le 20 novembre, il reçoit à nouveau les représentants des principaux partis. Chacun a le sentiment que la crise est dépassée. Une seule journée suffit. Pour former le gouvernement, les communistes décidés à ne pas rompre avec les socialistes sont conciliants. Vincent Auriol suggère de séparer le ministère de la Défense nationale en deux départements. L'un chargé des armées est confié à un représentant du MRP, Edmond Michelet. L'autre chargé de l'armement est attribué au communiste Charles Tillon. Les communistes obtiennent également les ministères suivants, industrie et commerce, travail, production industrielle et fonction publique, qui est dévolu à Maurice Thorez, promu par ailleurs ministre d'État. Les socialistes se montrent peu exigeants. Ils ne veulent pas de poste de premier plan pour pouvoir se désolidariser, le cas échéant, de l'action gouvernementale. « Nous allons pratiquer la politique du strapontin », précise Vincent Auriol. Léon Blum l'approuve. Le 23 novembre, le gouvernement se présente devant l'Assemblée qui lui accorde sa confiance à l'unanimité. Rapidement, les socialistes passent à l'offensive. Ce changement de stratégie est l'œuvre d'un jeune député du Pas-de-Calais, Guy Mollet. Il condamne l'unité d'action avec les communistes et soupçonne de Gaulle d'être partisan du régime présidentiel. André Philippe, président du groupe parlementaire socialiste, dirige la puissante commission de la Constitution. Sous son impulsion, ses membres limitent les prérogatives du futur président de la République, fonction qui revient de droit, c'est l'avis unanime, au général de Gaulle. Le 18 décembre, la commission parlementaire opte pour son élection par l'Assemblée nationale. Elle lui interdit d'assister au Conseil des ministres. Elle lui retire l'exercice du droit de grâce. Le chef de l'État ne préside pas le Conseil de la Défense nationale. C'est une simple potiche. Le 1er janvier 1946, les débats sont rudes à l'Assemblée constituante. De Gaulle se rend au Palais Bourbon dans l'après-midi. La violence des échanges avec les députés socialistes et communistes est extrême. La décision du chef du gouvernement est prise. Il se retire. Il prend tout d'abord des vacances, les premières depuis 10 ans. C'est la retraite au désert, affirme André Malraux. Le 4 janvier, il part avec sa famille au Cap d'Antibes, à la Villa sous le vent. Il relie les mémoires du cardinal de Ré et ceux de Saint-Simon. Il rompt tout contact avec la capitale. Rentré à Paris le 14 janvier, il reçoit dès le lendemain Robert Lacoste et se lance dans une violente attaque contre les partis. Il met fin à l'audience par cette phrase « Les Français ont peut-être besoin de plusieurs années de vachardise ». Ensuite, il réunit les commissaires de la République. D'un ton grave, il prévient « Je m'en vais, je me retire, j'ai accompli ma mission, j'ai remis en place les institutions républicaines, elles n'ont plus qu'à fonctionner ». Le 17 janvier, il demande à Louis Jox de convoquer le Conseil des ministres pour le dimanche suivant. La veille, Gaston Palevski fait porter aux membres du gouvernement une convocation dont l'ordre du jour mentionne seulement « communication du général de Gaulle ». Le 20 janvier à midi, précise, le général en uniforme entre dans la prestigieuse salle des armures du ministère de la guerre. Il serre la main des ministres sans leur laisser le temps de s'asseoir. Il prononce une courte allocution. « Ma mission est terminée. J'avais entrepris de libérer la France avec l'armée française sous l'autorité d'un gouvernement français. La France est libérée, le gouvernement est installé dans la capitale, la légalité républicaine est rétablie, la tâche que je m'étais assignée est accomplie. Le régime exécutif des partis est reparu, je le réprouve, mais à moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas et qui sans doute tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. L'action que vous menez à l'intérieur du gouvernement ne correspond pas à l'idée que je me fais de la solidarité gouvernementale nécessaire à l'autorité de l'État. Vous passez votre temps, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, à vous manger la laine sur le dos. Vous épousez les querelles de vos partis respectifs. Ce n'est pas ainsi que je comprends les choses. Il me faut donc me retirer. De Gaulle quitte la salle, serre les mains de ses collaborateurs et s'en va. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire Un jour, trois livres préparée par Emmanuel. Mais d'ici là, une pause musicale avec Michel Sardou. Nous écoutons l'un de ses premiers succès. Nous sommes en 1968, L'Héricain.
L'Héricain n'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres. Ce sont quatre ouvrages exceptionnellement aujourd'hui, à commencer par « Là où renaît l'espoir » d'Élise Fischer. C'est publié aux éditions Kalman-Lévy. Édouard et Reine sont des enfants de la guerre. Nés d'un père alsacien, Armand Baumann, et d'une mère lorraine, Léonie Pelletier. Édouard est venu au monde en 1939, alors qu'Armand, mécanicien automobile, était sur la ligne Maginot. Fait prisonnier, le jeune Alsacien a été aussitôt enrôlé de force dans l'armée allemande. Il parvient à s'échapper et retrouve brièvement Léonie avant de rejoindre les forces françaises libres. Rennes va naître en 1942. Quant à Léonie, leur mère, elle va s'engager dans les rangs de la résistance. Pourtant, les deuils, la souffrance et les non-dits vont éloigner le frère et la sœur. 50 ans après, Édouard décide d'affronter le passé avec sa sœur et des non-dits va naître une histoire familiale très différente de celle officielle. Là où renaît l'espoir, c'est signé Élise Fischer, c'est publié aux éditions Kalman-Lévy. Les loups-garous d'Argentine de Jérémy Vulk aux éditions Pygmalion. Flic émérite, Arnaud Chimansky connaît pourtant une mauvaise passe. Sur la sellette depuis plusieurs mois, il tente de sortir la tête de l'eau. Mais le sort s'acharne puisqu'il apprend le décès de son grand-père, héros de la famille rescapé d'Auschwitz. Alors qu'il aide ses parents à vider la maison du défunt, il fait une découverte surprenante et plus que dérangeante. Finalement, sa suspension tombe à pic. Arnaud peut partir à la recherche de la vérité. Et toute la vie de sa famille est construite sur un immense mensonge. Ce roman est aussi celui de l'Argentine, lieu d'asile des nazis en cavale. En mars 2000, le centre Simon Wiesenthal a en effet révélé que 120 000 noms de nazis installés en Argentine, dont celui de Joseph Mengele. Les loups-garous d'Argentine de Jérémy Vulk, c'est publié aux éditions Pygmalion. Berlin Requiem de Xavier-Marie Bonneau aux éditions Plomb. En juin 1954, l'Opéra Royal du Danemark cherche un nouveau chef d'orchestre pour remplacer le grand Willem Furtwängler. Un jeune musicien est choisi. Rodolphe Meister, le fils d'une célèbre cantatrice. Tous trois sont nés à Berlin, se sont connus et fréquentés. Mais en 1933, tandis que les nazis font de Furtwängler un trésor national recevant les honneurs par Adolf Hitler lui-même, le destin de Rodolphe et de sa mère va basculer. L'enfant n'a que 8 ans et comme beaucoup... Le nazisme le fascine. Et cela jusqu'au jour où la Gestapo découvre à sa mère une ascendance juive. Elle va d'ailleurs être déportée à Birkenau. En 1954, lorsque Rodolphe retrouve Furtwängler, mourant, leurs histoires s'entrechoquent. Comment Furtwängler a-t-il pu accepter la reconnaissance d'un régime barbare ? Est-il possible de placer l'art au-dessus de la morale ? Mais la musique n'est pas la seule chose qui les unit. Berlin Requiem de Xavier-Marie Bonneau, C'est aux éditions Plon et je vous le recommande particulièrement. Hôtel Berlin 43, pour terminer cette chronique littéraire de Vicky Baum aux éditions Métayer. En 1945, poussé par le rationnement et les bombardements, tout ce que la ville compte de diplomates, de généraux, d'hommes d'affaires et de héros du champ de bataille se retrouve dans un palace à Berlin, un palace au luxe suranné, comme dans un ultime refuge. La comédie humaine se poursuit jusqu'à l'absurde et les dignitaires fatigués cherchent les étoiles qui pourraient continuer d'entretenir leur rêve de victoire au milieu de tous ces hommes. Brille Tilly, une femme facile mais désargentée, et Lisa Dorn, égérie du Führer, pour qui la foule envahit encore chaque soir le théâtre. C'est elle que va rencontrer Martin Richter, l'étudiant révolté, le téméraire opposant au régime poursuivi par la Gestapo. Guidée par lui, elle va ouvrir les yeux sur la réalité et la barbarie du nazisme et l'aider. Ce roman, écrit en anglais par Vicky Baum, exilée aux États-Unis et scénariste à Hollywood, est publié en 1943 dans une version édulcorée. L'auteur le traduit en allemand ensuite. Il sera édité en France en 2004 par Le Rocher à partir de la version américaine et avec quelques autres coupes. Cette nouvelle traduction restitue le livre dans son véritable texte. Hôtel Berlin 43 de Vicky Baum. C'est publié aux éditions Métayer. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique littéraire que je viens de vous présenter. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Nous nous séparons en chanson avec Michel Sardou, un de ses succès de 1981, Les Lacs du Connemara, qui nous transporte en Irlande, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle narration historique.
Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs,
c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre.
D'Angleterre.